Et avec les paroles de ce chant dans notre esprit, ça doit vraiment nous faire réfléchir quand même cet appel qui nous est lancé. Jésus a tant fait. Et comme dit ce chant, tout fait pour nous. Et quelle est notre réaction face à cela? Le passage que nous allons voir ce matin dans la parole de Dieu va un peu dans ce sens, et je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, c'est là où nous serons. Cet épître écrit de façon anonyme, peut-être par Paul. D'ailleurs, même dans certaines Bibles, je crois, c'est la Bible Martin notamment, la version Martin, c'est marqué en début de livre, Épître de Paul aux Hébreux. Bon, possible que ce soit lui, certains avancent Luc, d'autres Apollos, mais peu importe qui a écrit ce livre, eh ben, ça fait partie de la parole de Dieu, c'est important pour nous. Et l'auteur, il était chapitre 10, Hébreux chapitre 10, exact, l'Épître aux Hébreux chapitre 10, et l'auteur apparemment a une grande connaissance de l'Ancien Testament, parce qu'il le cite très souvent, il va faire très souvent référence à des passages, à des lois, des cérémonies, tout ce qui était dans l'Ancienne Alliance. Et puis, il va s'efforcer de montrer que Jésus-Christ est supérieur à tout. Il est supérieur à la loi, il est supérieur à Moïse, il est supérieur à Abraham, il est supérieur aux anges. Jésus-Christ est au-dessus de tout. C'est vraiment le but de cet auteur. Et finalement, il fait ça parce qu'il veut encourager les chrétiens qui apparemment souffraient la persécution. Ça, on voit au chapitre 12, mais il va prendre tout son temps pour expliquer comment Jésus-Christ est supérieur, et grâce à ce que Jésus-Christ a fait à la croix, ben maintenant tout a changé. Et ici, chapitre 10, dans la première partie de ce chapitre, l'auteur va expliquer que finalement, le système des sacrifices de l'Ancien Testament n'a plus raison d'être. Parce que le sacrifice suprême a été offert, Jésus-Christ lui-même. Et verset 18 de ce texte, Hébreux chapitre 10, verset 18, « Or, là où il y a pardon des péchés, » et là il sous-entend par Jésus-Christ, le sacrifice suprême, le sacrifice une fois pour tout, « il n'y a plus d'offrande pour le péché. » Il montre par cela qu'on n'a pas besoin de sacrifier des animaux. On n'a pas besoin de demander pardon pour le salut, encore et encore, non. C'est une fois pour tout. Parce que Dieu nous pardonne en Jésus-Christ. Et déjà, cette pensée-là devrait nous encourager, devrait nous remplir de joie, de remerciement envers Dieu. Que Dieu sauve des pécheurs comme vous et moi. C'est tellement extraordinaire. Et cet auteur dit, nous sommes pardonnés à condition, bien sûr, que nous avons accepté Jésus-Christ comme notre sauveur. Et maintenant, l'auteur va se lancer dans les conséquences de cela. Il va dire, maintenant, pour vous, aujourd'hui. Et on peut le dire pour nous, 21e siècle, à Vernon, pour nous aujourd'hui. Verset 19, regardez. Ainsi donc sur la base du sacrifice de Jésus-Christ, sur la base de notre acceptation même de ce salut, ainsi donc, frères, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Alors, cette première phrase, pour des Juifs qui l'entendent, qui l'auraient lu, était presque impensable. Que n'importe qui, à n'importe quel moment, puisse entrer dans le sanctuaire, ce lieu du Saint des Saints. Eh bien, c'était impensable. Ah non, c'était la mort assurée. Même le souverain sacrificateur ne pouvait pas entrer quand il voulait. l'auteur va expliquer plus tôt dans le livre, une fois par an, dans des conditions bien spécifiques. Et s'il ne le faisait pas, ben, il mourrait. D'ailleurs, l'histoire est racontée que le souverain sacrificateur portait des clochettes, d'ailleurs c'était intégré dans ses vêtements, des clochettes quand il entrait dans le lieu très saint. Pourquoi ? Pour que les gens à l'extérieur puissent entendre, et si jamais ils n'entendaient plus ces clochettes, eh ben, ils se rendaient compte que ben, le sacrificateur n'avait pas fait son travail. Et même ça allait jusqu'à avoir une corde attachée au pied du souverain sacrificateur, pour que si jamais il mourait à l'intérieur, on pourrait le retirer. Hein? Ça allait jusque-là. Donc imaginez-vous la crainte, imaginez-vous la séparation entre l'homme et Dieu. Et maintenant, cet auteur annonce, grâce à Jésus-Christ, libre accès. Cette libre entrée dans le sanctuaire. Non mais ça bouleverse tout. Et voilà ce que fait Jésus. Il bouleverse tout. Par le sang de Jésus, cet accès libre nous est donné. Verset 20, il continue « Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. » Jésus est réellement venu en chair. Il n'était pas un fantôme. Il n'était pas un vu d'esprit. C'était réellement homme. Mais il était aussi réellement Dieu. Et verset 21. Nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Comme cet épître, comme ce livre va dire, il y a un médiateur entre Dieu et les hommes. Et ce n'est pas le pape. Ce n'est aucun homme. Non, c'est Jésus-Christ, l'homme. Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes parce qu'il est le seul qui est mort pour les péchés de l'humanité. Il est le seul qui puisse nous sauver. Et lorsque nous plaçons notre foi en lui pour le salut, ben, il nous offre ce libre accès auprès de Dieu. Et là, verset 22. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, avec un cœur vrai. Dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Parce que nous sommes sauvés, si nous avons placé notre foi en Jésus pour le salut. Alors c'est ça la condition. On ne naît pas sauvé. Non, on devient enfant de Dieu en plaçant notre foi, confiance en Dieu pour le salut. Mais si tel est notre cas, et je prie que ce soit le cas pour chacun ici dans l'Église aujourd'hui, cet auteur nous dit, approchons. Nous n'avons plus besoin d'avoir peur de Dieu. On est dans la crainte, bien sûr, crainte respectueuse, mais on n'a pas besoin d'avoir peur de Dieu. On n'a pas besoin d'attendre un lieu ou même un moment spécifique, vous le savez. On s'approche de Dieu dans la prière. Et à n'importe quel moment, on peut adresser notre prière à Dieu. Et il y a une image de cela qui est tellement formidable que nous comprenons très très bien aujourd'hui. Hein? Ça s'appelle ça, téléphone portable. Je prends ça, bon, là il est 11h10 chez mes parents aux États-Unis. Il est 5h du matin. Je ne vais pas les déranger, mais si j'avais voulu, je pourrais leur passer un coup de fil. Okay. C'est pas dit qu'ils répondent, mais bon, voilà. Donc là, avec ce petit appareil, je peux joindre pratiquement n'importe qui dans le monde, à n'importe quel moment. Mais bon, il faut qu'il y ait du réseau. Il faut que l'autre personne ait son numéro. Il faut que l'autre personne soit près de son téléphone. Enfin, il y a un ensemble de conditions. Et avec Dieu, c'est pas comme ça. On peut appeler Dieu. Il y aura toujours du réseau. Il va toujours répondre. Ça ne va jamais couper. Et pourtant, lorsqu'on considère notre vie, avec quelle fréquence est-ce que nous nous adressons à Dieu dans la prière? Quelle est notre habitude en ce qui concerne la prière? Est-ce que ça se limite au repas? Et ça, c'est très bien. Il faut remercier Dieu pour le repas qu'il pourvoit. Est-ce que ça se limite au dimanche, où on se dit, bon, je suis dans la maison de Dieu, j'élève ma voix vers Dieu, Est-ce que ça se limite à la nuit ou avant de se coucher ou est-ce que ça se limite au matin quand on se lève? Tout ça, ce sont de bonnes choses, comprenons bien, mais si notre prière, notre accès à Dieu se limite à ça, il est possible que peut-être on n'ait pas totalement compris la relation que Dieu veut avoir avec nous. Puisque Jésus a ouvert l'accès, nous pouvons entrer à n'importe quel moment dans la présence de Dieu. Et ici, il dit « Approchons-nous ». Donc, avec un cœur sincère, chapitre 4, cet auteur va dire « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce ». Il dit « Il faut le faire ». Et puis, dans la plénitude de la foi, il va associer aussi cette idée un peu plus tard, « Ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le craignent ». Donc, cette foi, cette confiance, parfois on vient vers Dieu, on lui demande certaines choses, on lui expose nos requêtes, nos soucis, mais on a cet arrière-plan, mais de toutes les façons, c'est pas dit que Dieu agira, ou peut-être ma situation elle est particulière, ou peut-être Dieu il est tellement occupé avec autre chose que bon, ma petite vie, qu'est-ce qu'elle elle vaut face à tous les soucis du monde? Et ici, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous montre que cette pensée-là, il faut l'évacuer. Parce qu'on vient devant Dieu avec la foi, non seulement qu'il nous entend, mais qu'il va agir. Alors, d'examiner notre prière. Déjà, est-ce que nous prions régulièrement? Combien de fois dans la journée est-ce que vous élevez votre voix à Dieu, soit intérieurement, ou bien à haute voix? Est-ce que c'est une pratique régulière? Et lorsque nous prions, avons-nous la certitude qu'il va agir? Parce que si nous sommes sauvés, si nous nous disons enfants de Dieu, voilà ce qui doit être normal pour nous. Alors, est-ce que notre vie correspond à cela? Et puis, verset 23, regardez. Puisque Dieu nous a sauvés, parce qu'il nous a même laver, purifier, comme nous voyons dans le verset 22, verset 23, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Retenons fermement la profession. Ce monde essaye de nous faire dévier de la parole de Dieu. Ce monde essaie de nous dire que Dieu n'existe pas. Ou si jamais il existe, il a tellement d'autres soucis que de s'occuper de la terre. Si Dieu existe, eh ben, il n'est pas connaissable. Il est tellement loin, il est tellement distinct. Mais ce n'est pas du tout ce que dit la Bible. Non, la Bible nous montre que Dieu est un Dieu personnel. Mais le monde essaie de nous dire autre chose. Ce monde essaie de nous dire, ce monde, il est venu un peu à l'existence tout seul. Aussi ridicule que cela puisse paraître, c'est ce que le monde croit. Satan attaque. Satan veut nous faire dévier. Il y a des tentations en nous-mêmes dont nous avons parlé la semaine dernière, avec lesquelles nous devons lutter. Et notre devoir, si nous sommes enfants de Dieu, c'est de retenir fermement ce que nous croyons en ce qui concerne la Bible. Et il y a cet avertissement ici parce que nous sommes tentés parfois de dire « Ah, peut-être c'est pas vrai. » Bon, Dieu promet de pardonner, mais peut-être tel ou tel péché, peut-être là je l'ai fait trop souvent. Ou peut-être telle ou telle attitude, je ne pourrai jamais changer. Et ici, cet auteur de l'Épître aux Hébreux montre à ses enfants de Dieu « Non ». Quand Dieu promet quelque chose, parce que Dieu est fidèle, bah, il faut rester accroché à ça. Il ne faut pas du tout dévier. Retenons fermement. On s'accroche comme pour sauver sa vie. Pensez à cette image, quelqu'un accroché à une corde. Et là, s'il lâche, bah, il va tomber d'une centaine de mètres. Bah, croyez-moi, cette personne va s'attacher à la corde. Et ici, ce que nous croyons en ce qui concerne la Bible, Bah, il faut rester là-dessus. Peu importe ce que le monde nous dit, peu importe éventuellement ce que d'autres personnes qui professent la Bible ou qui professent Dieu disent, il faut revenir à ce que Dieu dit dans sa parole. Parce qu'encore une fois, comme dit ce verset 23, celui qui a fait la promesse est fidèle. Nous sommes par moments infidèles, reconnaissons-le. Mais Dieu, lui, il est fidèle. Et lorsque nous examinons notre vie, encore une fois, Jésus est le Sauveur. Et si nous avons placé notre foi en lui pour le salut, est-ce que notre foi correspond à ce verset, à ces versets? Est-ce que notre vie au jour le jour est une vie de prière, est une vie avec Dieu continuellement? Est-ce que notre vie est une vie de ferme assurance dans les promesses de Dieu? Si cela n'est pas le cas, bah, il faut revoir notre foi. Il faut revoir notre relation avec Dieu parce que voici dans ces versets ce que Dieu veut de chacun de ses enfants. Mais après, tout ça, ça peut rester un peu théorique jusque-là. Mais dans les deux versets qui suivent, l'auteur devient très pratique. Parce que c'est dans ce contexte-là que deux commandements sont donnés qui sont très importants pour nous aujourd'hui. Ces commandements sont extrêmement compliqués et nous cherchons par moments des excuses ou des justifications, mais ces commandements sont là. Et alors, il faut les comprendre et bien sûr, il faut les mettre en pratique. Prenons le premier au verset 24. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. C'est dans ce contexte de notre relation avec Dieu et de ce que lui, il attend de nous, que cet auteur va dire « Vous avez le devoir de veiller les uns sur les autres ». Non pas qu'on s'ingère et on s'occupe des affaires de tous, mais comme nous sommes une famille en Dieu, tout comme les membres d'une famille s'occupent des uns des autres, s'occupent, s'inquiètent, prennent soin, veillent les uns sur les autres, ben nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu à faire cela. Mais comment concrètement? Ben, regardez la suite du verset. Pour nous exciter. Alors j'aime bien comment on a traduit ce mot du grec, puisque parfois on parle de stimuler à l'amour et aux bonnes œuvres. Mais là, exciter. Alors, si je vous posais la question, qu'est-ce qui vous excite? Quelle est votre passion? Hein? Le café, c'est bien. Hein? Moi, c'est les voitures, j'aime bien. Les voitures, notre frère Patrick qui n'est pas là ce matin, c'est le sport, notamment le vélo, mais aussi la course, des animaux pour certains. Okay? Et puis, bon, on peut avoir toutes sortes de passions. Et vous savez identifier chez quelqu'un quand il est passionné de telle ou telle chose. Ben, la personne en parle souvent, a plein de détails sur telle ou telle chose. Et là, on est excité. Là, on pense qu'à ça. Et ici, c'est cette idée de nous exciter, c'est-à-dire de transmettre cette même passion, mais pas pour les choses matérielles. Hein. Comprenons bien, pour les choses matérielles, il n'y a rien de mauvais en soi. Mais ça ne doit pas être le plus important. Non, nous sommes appelés ici à nous exciter à quoi? À l'amour. Est-ce que vous êtes passionné de l'amour que vous pouvez apporter à vos frères et sœurs? Vous y avez déjà réfléchi dans ces termes, d'être passionné, excité de l'amour que vous pouvez apporter à vos frères et sœurs? Je vous avoue que j'ai du progrès à faire dans ce domaine. Hein? Je suis passionné de pas certaines choses. Mais parfois, je ne suis pas passionné, je ne suis pas excité à transmettre l'amour de Dieu. Alors que ce verset nous montre que c'est ce que nous devons faire, nous exciter à l'amour. Ma vie doit stimuler, doit exciter mes frères et sœurs à plus d'amour. Et il est frappant, je n'ai pas relevé tous les versets, mais il est frappant de voir dans l'évangile de Jean, dans la première épître de Jean, et puis partout dans le Nouveau Testament, cette phrase qui revient, « Aimez-vous les uns les autres ». Jésus a même dit dans Jean chapitre 13, « À ceci, à cet amour que vous aurez les uns pour les autres, tous sauront que vous êtes mes disciples. » Est-ce que cet amour de Dieu qui est manifesté en nous est important? Je vous soumets que oui. Et lorsqu'il est en manque, ça montre que nous avons perdu de perspective qui est Jésus et ce qu'il a fait pour nous. Ici, cet auteur dit « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour. » Et ici, il ne fait pas de distinction. Il ne dit pas « Vous devez stimuler, exciter certains de vos frères et sœurs à l'amour. » Tout simplement les personnes avec lesquelles vous entendez bien, tout simplement les personnes avec lesquelles vous avez des intérêts communs. Non, tous. Cette expression « les uns les autres » revient presque une centaine de fois dans le Nouveau Testament. Et c'est assez impressionnant pour montrer ce que nous devons faire les uns envers les autres. Et là, sans distinction, nous avons ce devoir de nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Alors, quand vous pensez à vos frères et sœurs, quelle est la pensée qui vous vient à l'esprit? Quelle est votre optique? Est-ce que vous dites, « Ah oui, là, j'ai la possibilité d'exciter, de stimuler, de transmettre ma passion de l'amour de Dieu à mes frères et sœurs. » Alors, bien sûr, ça implique que nous soyons déjà passionnés par l'amour de Dieu. On ne peut pas transmettre une passion qu'on n'a pas. Et les autres sont lorsque nous sommes passionnés de quelque chose. On a déjà apporté cet exemple, mais quelqu'un qui dit, « Moi, je suis fan, je suis supporteur de telle ou telle équipe. » Dans le sport. Ah ben vous connaissez les joueurs. Ah non, non, non. Ben vous regardez à la télé. Ah non, non, non. Vous allez au stade. Ah non, non, non. Mais moi je suis fan. Ah bon? Ok, bon. Mais quelqu'un qui ne cesse de parler de telle ou telle équipe, qui ne cesse de parler de tel ou tel personnage, ben là on peut voir lorsque la personne est excitée, passionnée par un sport, par tel ou tel passe-temps. Et est-ce que les gens voient cela en nous, en ce qui concerne l'amour de Jésus-Christ? Ou est-ce qu'ils voient plutôt l'indifférence chez nous? Ce serait triste et ce serait contraire à ce que Dieu veut pour ses enfants. Mais aussi, l'amour peut rester quelque chose d'immatériel, un peu vague. Bon, l'amour, comme on dit, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, ce qui est vrai. Mais ici, l'auteur parle de l'amour et aussi bonnes œuvres. Ce n'est pas que dans le parler, ce n'est pas que dans les sentiments, mais c'est dans le concret. Stimuler à l'amour, exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Alors, bonnes œuvres de toutes sortes. L'aide que nous apportons les uns les autres. Ce que nous faisons dans l'église, c'est-à-dire entre les quatre murs de ce bâtiment. Ce que nous faisons à l'extérieur. Est-ce que nous transmettons notre passion, notre excitation, notre attente pour des bonnes œuvres pour Dieu? Est-ce que nous sommes déjà en train de faire ces bonnes œuvres pour lesquelles Dieu nous a préparés? Éphésiens chapitre 2, Dieu nous a sauvés par grâce, par le moyen de la foi, afin que nous pratiquions ces bonnes œuvres que lui il a préparées d'avance. Est-ce que nous sommes en train de faire ça? Et est-ce que nous sommes en train de stimuler nos frères et sœurs dans cela? La question à se poser. Pour nous exciter, nous stimuler, transmettre notre passion de l'amour et aux bonnes œuvres. Est-ce que vous, vous voyez dans ce verset? Moi, je ne m'y vois pas assez. Et peut-être votre témoignage est pareil. Mais ce qui est formidable, c'est que nous pouvons. Ceci peut nous décrire par la grâce de Dieu. Ce n'est pas perdu à l'avance, ce n'est pas un idéal hors d'atteinte que nous devons garder devant les yeux, mais bon, on se dit, aucune possibilité d'atteindre, alors on n'essaye même pas. Non, 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 c'est quelque chose avec lequel Dieu peut nous aider au jour le jour. avec des progrès pas à pas chaque jour. Donc voici le premier commandement. Veillons les uns pour les autres pour transmettre cette passion que nous avons de Dieu. Mais après, verset 25, un autre commandement. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Alors, je suis tout à fait conscient que j'apporte ce message pendant les mois d'été, où en effet, il y a pas mal de gens absents. Hein? Alors, pour différentes raisons, notamment de vacances, on pourrait dire qu'il y a des personnes qui ont abandonné leur assemblée ce matin. Hein? Alors, ne soyons pas prompts à les critiquer, non, puisque ici, on ne parle pas de manquer à une réunion comme cela, mais on parle d'une habitude que avaient pris certains, malheureusement, de ne plus se rassembler. Puisque c'est vraiment l'idée de rassemblement qui est ici. Et même, on ne parle pas forcément du dimanche, même si aujourd'hui, la réunion principale de l'Église se passe le dimanche. Mais ici, l'idée dans ce verset, c'est à chaque fois que les frères et sœurs se réunissent, nous devons être prêts à nous associer à cela. N'abandonnons pas notre assemblée, notre rassemblement. Et cet auteur souligne le fait que c'est la coutume de quelques-uns. Déjà à l'époque, il y avait des personnes qui ont délaissé des rassemblements des enfants de Dieu. Et cet auteur montre que ce n'est pas du tout ce que Dieu veut. Puisque, sur la base du premier commandement dans le verset 24, de stimuler à l'amour et aux bonnes œuvres, comment est-ce possible si on n'est pas en contact? Comment est-ce possible si on ne se voit pas? Et surtout à l'époque, comme il n'y avait pas de téléphone, comme il n'y avait pas Internet, les gens pour discuter, pour se stimuler et tout, ils devaient se voir. Aujourd'hui, cela devient un peu plus facile avec Skype, avec Internet et tout. À la limite, alors comprenons bien, je n'encourage pas du tout ceci. Mais il serait possible d'installer une caméra ici, d'avoir un écran chacun chez soi, et que j'apporte le message et que chacun reste chez soi et que vous entendiez la parole. Hein? Encore une fois, comprenons bien, je n'encourage pas ça. Hein? Parce que, à ce moment-là, où serait notre rassemblement? Et comment est-ce que, si chacun était chez soi, on pourrait s'encourager? On pourrait apporter cette passion pour Dieu, pour sa parole, pour les bonnes œuvres? Comment pourrions-nous manifester cet amour si chacun il était chez soi, chacun dans son coin? Impossible. Et sur la base du premier commandement, du verset 24, excité à l'amour et aux bonnes œuvres, si on ne se voit pas ou très rarement, si on communique très rarement, cela est impossible. Et voilà pourquoi cette idée de se rassembler régulièrement est tellement importante. Et lorsque nous réfléchissons de nouveau à notre vie, est-ce que devant Dieu, nous sommes coupables d'abandonner notre assemblée? À chacun de réfléchir. Et bien sûr, dans une petite église comme la nôtre, ça va se voir. Un peu plus que si, admettons, on était plusieurs centaines. Quand on est plusieurs centaines, si quelques-uns manquent, ça ne se voit pas trop. Notre église, quand les gens manquent, ça se voit, n'est-ce pas? Pour le meilleur, pour le pire. Mais lorsque nous réfléchissons à notre vie, est-ce que, avec un examen devant Dieu, on doit reconnaître qu'on est coupable d'abandonner notre assemblée? Peut-être, peut-être pas. Mais c'est une question à se poser, et pas simplement le dimanche matin. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas une réunion spécifique qui est en vue, mais c'est l'habitude. C'est-à-dire à chaque fois que l'Église, les frères et sœurs, se réunissent officiellement, eh bien, est-ce qu'on est là? Ou est-ce que il y a d'autres choses qui viennent et qui nous empêchent d'être présents? Et est-ce que ces choses sont légitimes? Parfois, elles peuvent l'être, mais pas toujours. Et est-ce que nous avons pris l'habitude de ne pas nous associer aux réunions officielles des frères et sœurs? Et ici, parce que notre devoir, c'est de stimuler, d'exciter à l'amour et aux bonnes œuvres, nous devons logiquement avoir ce désir de nous réunir, de nous rassembler. Et ça, pour les réunions officielles de l'Église, mais également en dehors. Comme vous le savez, j'encourage des rassemblements de frères et sœurs, s'inviter, se téléphoner, de se voir dans la semaine. Puisque notre temps le dimanche matin est tellement court, on ne peut pas tout faire le dimanche matin, alors voilà, il est bien de pouvoir se voir à d'autres moments. Et puis, cet auteur continue dans les versets qui, dans ce verset, comme c'est la coutume de quelques-uns, il ne faut pas être comme ça, non, ça c'est à laisser de côté, mais exhortons-nous réciproquement. Impossible de faire ça si on ne se voit pas. Impossible de faire cela si on ne communique pas. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Cet auteur a écrit il y a pratiquement 2000 ans. Et si déjà il disait que le jour, il entend le jour du Seigneur, le retour de Jésus-Christ en gloire, s'il disait déjà à l'époque que cela s'approchait, croyez-moi que ça, c'est encore plus proche aujourd'hui. D'ailleurs, on n'a jamais été aussi proche du retour du Seigneur Jésus qu'aujourd'hui. Et demain, ce sera pareil. Hein? Réfléchissez un peu à cela. C'est très profond. Jésus-Christ revient. La Bible l'explique. Et lorsqu'il reviendra, comment va-t-il nous trouver? Et qu'est-ce qui nous permettra de continuer jusqu'à son retour? Qu'est-ce qui permettra de ne pas baisser les bras? Qu'est-ce qui permettra de ne pas tomber? C'est parce que nous nous rassemblons. Le livre d'Ecclésiaste, Salomon disait déjà, dans ce livre, dans l'Ancien Testament, eh ben, comment est-ce que une seule personne peut rester debout? Non, quand on est deux, ben, on est plus fort. Un fil à trois cordes se rompt difficilement. Et lorsque nous sommes ensemble, par la puissance de Dieu, nous sommes plus forts. Et le Nouveau Testament est rempli de versets qui nous encouragent à la fois à être ensemble, de nous aider les uns les autres, de nous occuper des uns les autres, de nous reprendre les uns les autres là où il le faut, de prier les uns pour les autres. Le livre de Jacques va même dire confesser les péchés les uns aux autres. Et dans ces versets de Hébreux 10, nous voyons que le plan de Dieu, c'est que chaque enfant de Dieu soit passionné de Dieu, soit rempli de l'amour de Dieu et des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, et qu'il soit en mesure de transmettre cela à d'autres. Et tout cela dans le contexte des rassemblements des frères et sœurs. Et maintenant, l'examen de notre vie, notre quotidien, qui est fait de travail. Oui, on se lève, on va au travail, qui est fait d'école, qui est fait de toutes sortes de responsabilités. Où est la place que nous consacrons à ces choses? Où est la place que nous consacrons à la Bible, à la prière? Où est notre passion pour Dieu? Et comment est-ce que cela se manifeste dans l'Église? Est-ce que je suis présent? Est-ce que j'apporte quelque chose? Ici, cet auteur montre que c'est le plan de Dieu de faire cela. Alors, est-ce que je suis dans le plan de Dieu? Est-ce que déjà je suis sauvé? Est-ce que j'ai accepté Christ comme mon sauveur personnel? Si oui, voici la vie normale qu'il veut pour moi. Ma place est dans le plan de Dieu. Est-ce que je suis vraiment à ma place? Est-ce que je suis en train de faire ce que Dieu veut? Parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. Ici, cet auteur veut encourager les chrétiens. Il veut les pousser à changer. Une décision sera prise. Soit oui, Dieu, je vais le faire, soit non, je ne vais pas. Nous savons quelle décision Dieu veut que nous fassions. Si les chrétiens déjà à l'époque en avaient besoin, aujourd'hui, à Vernon, 21e siècle, nous avons également besoin de cela. Vous savez où vous avez besoin de changer. Dieu convainc du péché, oui, mais aussi il apporte son aide, c'est possible avec lui, et c'est son aide justement que nous allons demander dans la prière pour ces choses. Donc on va passer quelques instants dans le silence devant Dieu, et ensuite je prierai pour terminer. Oui Seigneur, nous sommes devant toi et nous te remercions pour ta parole, cette révélation qui nous montre ce que tu attends de nous. Merci que tu ne nous laisses pas dans l'incertitude, dans le doute, mais tu révèles clairement toi-même. Tu nous révèles clairement tel que nous sommes. Et aussi tu révèles ta puissance, ton aide que tu veux nous apporter. Je prie que tu puisses continuer de nous changer par ta puissance. Nous sommes incapables par nous-mêmes. Nous sommes faibles sans toi, mais avec toi tout est possible. Et nous prions à ce que tu aies toute l'attitude pour nous transformer, que tu enlèves tout obstacle, toute réticence de notre cœur, que tu continues cette œuvre bonne, agréable, parfaite, que tu as commencé en nous et que tu vas parfaire jusqu'à ton retour. Qu'il y ait de réels changements dans notre vie, que ce soit évident pour tous et que tu puisses recevoir la gloire parce que cela viendra de toi. C'est en ton nom que nous prions. Amen.